Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional. 20 juin, la journée mondiale des réfugiés, l'occasion de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde entier. Avec nous, Acte4F, association d'aide aux demandeurs d'asile, réfugiés et exilés. Puis, mutualisation des services entre la nouvelle antenne départementale du Rhône et le CCAS, Centre communal action sociale de Villefranche-sur-Saône, au 60 rue Montplaisir de l'Écoquartier. Les propos recueillis de Fabienne Bussiot, préfète du Rhône, lors de l'inauguration de la Maison du Rhône. Calade, le journal. 110 millions, le rapport annuel du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies en est le triste rappel. Le nombre de personnes déplacées dans le monde n'a jamais été aussi élevé. Le conflit en Ukraine a bien sûr poussé de nombreuses familles sur les routes, mais les conflits et le dérèglement climatique et ses conséquences, famine, catastrophes naturelles, restent la cause première de ces déplacements forcés à travers le monde. Chaque année, le 20 juin, le monde célèbre la Journée mondiale des réfugiés afin d'attirer l'attention sur le sort de millions de personnes forcées de fuir la guerre, la violence et la persécution et sur les obligations internationales découlant de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations Unies. Face à la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, les autorités des pays d'accueil, y compris les autorités régionales et locales, la société civile et les individus, ont démontré que des réponses collectives rapides sont la clé d'un soutien efficace aux réfugiés. Dans le même temps, les tragédies humaines rappellent brutalement la nécessité de respecter les droits de l'homme, des migrants et des réfugiés, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme. Le plan d'action du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes vulnérables dans le contexte des migrations et de l'asile en Europe propose des mesures et des activités ciblées pour renforcer la capacité des États membres à identifier et à traiter les vulnérabilités tout au long des procédures d'asile et de migration. Extrait d'un article du Conseil de l'Europe, Organisation de défense des droits de l'homme en Europe. Il compte 46 États membres. Les politiques de fermeture des frontières et le refus de délivrer des visas humanitaires imposent aux personnes qui fuient des persécutions et des zones de guerre un trajet dangereux aggravant leur situation. Le règlement Dublin contraint ces derniers d'asile à déposer leur demande dans le premier pays européen où ils arrivent et non dans celui de leur choix. Enfin, la dématérialisation administrative augmente les délais de dépôt des demandes. Chaque année, le 20 juin est une journée internationale ayant pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde. Act4F, association d'aide aux demandeurs d'asile, réfugiés et exilés, sont engagés depuis plusieurs années auprès de ces hommes, femmes et mineurs. Une discussion donc avec sa présidente, Gaëlle Gormley.
En effet, alors autour, et c'est pas nouveau hein, de toute façon, alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que les réfugiés arrivent en Europe uniquement depuis les problèmes en Syrie. Mais en fait, les réfugiés, il y en a toujours eu, de tout temps. Il y en a eu beaucoup plus dans les années 80, d'ailleurs. En fait, il y a toujours eu des passeurs, il y a toujours eu des gens qui ont voulu profiter de la situation, qui délestent de milliers d'euros les personnes qui ne peuvent pas, malheureusement, aller demander un visa parce que les ambassades sont fermées, parce qu'elles n'ont pas le temps d'attendre que le visa soit produit. Et donc, ils en profitent énormément, oui.
Alors, revenons effectivement en France et notamment sur notre migration. Quelles sont les personnes aujourd'hui qui arrivent, celles qui sont plus effectivement sur des pays de conflit? Est-ce que les réfugiés climatiques, on les voit déjà ou ils sont presque à nos portes? Dites-nous un petit peu.
Alors, depuis 7 ans qu'on agit, et puis moi, personnellement, avec mon expérience dans les autres associations où j'ai travaillé depuis l'an 2000, disons qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent des pays de l'Est, qui ont pour certaines des réelles raisons et des craintes sur leur vie. C'est pas que des migrants économiques, comme on les appelle parfois. C'est pas parce qu'on vient d'un pays qui n'est pas en guerre qu'on n'a pas des menaces sur sa vie et on ne mérite pas une protection internationale. Donc il y a une branche de l'asile qui concerne ces cas-là. On a pas mal de personnes qui viennent des pays de l'Est, donc on a eu beaucoup de personnes syriennes. Ensuite, il y a eu pas mal d'Afghans qui sont arrivés aussi, étant donné en plus ce qui s'est passé dernièrement. Des personnes yézidis irakiennes aussi, de ça 3-4 ans, mais il y en a toujours. Enfin bon, on peut pas dire qu'il y a une nationalité plus qu'une autre, à part avec les personnes syriennes et les personnes ukrainiennes. Les Irakiens yézidis, persécutés, et là, dernièrement, bah, évidemment, depuis mars dernier, un grand nombre d'Ukrainiens.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, qu'en juillet, normalement, il y aurait donc ce débat de projet de loi d'asile et d'immigration, qu'on a intitulé le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Et j'imagine que vous vous êtes penché dessus en tant qu'associatif.
Oui, tout à fait. On a un peu consulté ce projet de loi. Et d'ailleurs, sur Lyon, puisque notre association est basée d'un point de vue administratif à Lyon, on fait aussi partie de certains collectifs d'associations qui ont aussi épluché le projet de loi. Et de manière générale, c'est un projet de loi qui est présenté comme une solution pour améliorer l'intégration des personnes, comme si elles ne souhaitaient pas s'intégrer. Or, ce n'est pas du tout le cas. En fait, ce projet de loi, c'est plus une diabolisation de l'étranger et une restriction des droits, un frein à leur installation, on va dire, en France, malgré le fait qu'ils aient le droit de s'installer ici parce qu'ils auront demandé un titre de séjour et qu'ils l'auront eu. Ce projet de loi est vraiment... c'est une diabolisation, en fait. Moi, je le réduis à ce terme-là parce qu'il veut tout dire. En plus, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le projet de loi, par exemple, ils vont créer une plus grande exigence de parler français. Or, il faut savoir qu'il n'y a pas de cours de français de proposer aux personnes qui sont en demande d'asile tant qu'elles n'ont pas reçu un statut de réfugié. Et une demande d'asile, ça prend entre 6 mois, au plus long 2 ans, et en moyenne 1 an. Donc pendant 1 an, ces personnes, la seule solution pour qu'elles apprennent le français, c'est d'aller toquer aux portes des petites associations comme la nôtre qui se sont créées pour pallier les manquements du gouvernement. Et le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreuses pour proposer suffisamment de cours de français, suffisamment de professeurs bénévoles et de cours aussi suffisamment qualitatifs ou adaptés au niveau de la personne. Parce qu'il y en a qui parlent déjà un petit peu, il y en a qui ont appris un petit peu le français à l'école mais qui ont beaucoup oublié, puis il y en a qui ne parlent pas du tout, qui viennent d'un pays qui n'a pas le même alphabet, donc c'est difficile. Avant toute chose, ce projet de loi, il ferait mieux de dire on va créer plus de lieux officiels, agréés, avec des professeurs rémunérés pour apprendre le français et peut-être, bah oui, éventuellement, leur dire bah, il faut que vous ayez tant d'heures de français pendant votre période de demande d'asile. Et puis, une fois que vous avez votre statut de réfugié, vous faites les heures obligatoires, parce qu'il y en a. Et celles-ci sont bien faites par des professeurs rémunérés, mais c'est très peu d'heures, je ne sais plus combien c'est. Et voilà, donc il y a des grosses lacunes. Et ce projet de loi parle des personnes concernées comme s'il n'y en avait pas, comme si elles avaient déjà tout sur un plateau, que tout allait bien, qu'elles n'avaient aucun problème pour se nourrir, pour se loger. Ils ne comprennent pas le terrain vraiment, ils ne comprennent pas le quotidien de ces populations. C'est le plus gros problème.
Chaque année, le 20 juin, le monde célèbre la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays pour échapper au conflit ou à la persécution. Le thème de la Journée mondiale du réfugié 2023 était « De l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place ». La mutualisation des services entre la nouvelle antenne départementale et le CCAS Villefranche-sur-Saône au 160 rue Montplaisir de l'écoquartier. L'antenne du département regroupe les 4 anciennes maisons du Rhône de Burdeau, Bellini, Belleroche et Glézé et rassemble l'ensemble des services départementaux dans un lieu unique. L'intégration du CCAS, Centre communal Action sociale de Villefranche-sur-Saône, dans les locaux départementaux, qui propose donc un accueil mutualisé pour tous les usagers. Les propos recueillis de Fabienne Bussiot, elle est préfète du Rhône, lors de l'inauguration de la Maison du Rhône, la nouvelle antenne du département. On l'écoute.
En fait, je suis déjà venue dans le Beaujolais, je suis venue à la rencontre des élus à Villefranche-sur-Saône, mais officiellement, c'est la première fois que je viens dans le Beaujolais pour inaugurer cette belle antenne du département qui s'est associée avec le CCAS de la commune. Donc c'est un moment important, parce que si je suis préfète de région, d'une grande région, je n'oublie pas aussi que je suis préfète du Rhône et que j'ai un territoire de proximité où je me dois, avec les sous-préfets bien sûr, d'être présente.
La préfète du Rhône souligne l'exemplarité de la collaboration entre le département du Rhône et la ville de Villefranche-sur-Saône.
Moi je trouve, parce qu'on a chacun des compétences, l'État a des compétences, le département a des compétences, on est là dans l'enfance, le social, la petite enfance, la commune a aussi des compétences pour ses habitants. Et là, je trouve que c'est intelligent chaque fois qu'on part de la personne qui a besoin et qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut tous ensemble construire plutôt que de construire nos maisons pour bien se faire voir les uns les autres, se dire on part de la personne et on se met ensemble et on construit ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le CCAS et l'antenne du département font cause commune. Et je pense qu'une personne qui rentre ne savent pas forcément si c'est une personne du CCAS qui leur répond ou de l'antenne du département qui leur répond. Quelle est l'importance? Le tout, c'est qu'elle parte avec une réponse.
Tout enfant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses parents, relève du dispositif français de protection de l'enfance. La protection de l'enfance, une compétence du département.
Donc, je le disais tout à l'heure, effectivement, je suis contente, l'État n'a pas la compétence. Mais vous savez que l'État, enfin, comme les communes d'ailleurs, a une compétence générale. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur tous les secteurs. Et là, on a travaillé avec le département et on a signé une stratégie pour l'enfance et aussi de lutte contre la pauvreté. Et on a pu apporter 1,7 million au département pour justement l'aider à aller plus loin. Et je suis contente parce que ça nous a permis de financer notamment le déplacement à domicile pour les jeunes mamans qui viennent d'avoir des bébés, d'aller les voir à domicile, aussi pour les personnes âgées. Je pense qu'il faut ni qu'on oublie les jeunes, les bébés, mais qu'on n'oublie pas aussi nos anciens. Ça me semble important.
À noter le souhait du président du département du Rhône d'une maison France Service sur le Rhône, structure qui combine accueil physique et accompagnement numérique et qui regroupe en un même lieu plusieurs services publics.
Alors, France Service, c'est quelque chose qui marche très bien, effectivement. C'est des maisons où les services de l'État, mais pas seulement, du département peuvent venir, situés dans plusieurs points du département pour répondre justement aux besoins de la population. On en a 34 dans le département du Rhône. Et le président me dit, pourquoi pas faire de cet établissement, de cette antenne, une maison France Service. Alors je lui réponds, pourquoi pas, mais il faut qu'on regarde, parce que je n'oublie pas qu'à Villefranche, il y a déjà une maison France Service pas très loin. Mais sur le principe, si on met des services complémentaires, si quelqu'un qui vient ici trouve la CAF à côté, mais je crois d'ailleurs qu'il y a à Villefranche, et quand même bien des services, parce que je crois qu'il y a une CAF à Villefranche, si mes connaissances sont bonnes. Voilà, mais d'autres services qui peut-être sont plus éloignés de Villefranche, moi je dis pourquoi pas, tous regardent. En tout cas, jamais un nom de principe, mais plutôt voir ce que l'on peut faire ensemble, que ça s'appelle France Service ou autrement.
Très bien, je voulais un petit mot sur le fonds vert, mais je crois que vous êtes attendu.
Alors sur le fonds vert, c'est un fonds effectivement important. C'est un fonds qui permet, notamment ici on disait c'était une friche auparavant, ben, le fonds vert arrive beaucoup pour aider les collectivités locales justement à réhabiliter ces friches et à pouvoir construire demain, comme on dit souvent, une friche centre-ville. On refait un peu la ville sur la ville et c'est important.
C'était Fabienne Bussiot, préfète du Rhône, lors de l'inauguration de la Maison du Rhône, la nouvelle antenne du département qui intègre le Centre communal action sociale de la ville de Villefranche-sur-Saône, au 160 rue Montplaisir de l'Écoquartier.
Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.